Chapitre 11. Martin reprit son article sur les pêcheurs de perles qu'il tardait à finir, trop souvent distrait par ses velléités poétiques. Car il écrivait des poèmes d'amour, inspirés par Ruth, et toujours inachevés. La prosodie ne s'apprenait pas en un jour. Il fallait non seulement maîtriser la rime, la métrique et la structure, mais encore, et c'était là le plus difficile, ce petit quelque chose d'évasif et d'impalpable qu'il percevait dans la grande poésie et qu'il ne parvenait pas à faire entrer dans la sienne. C'était l'esprit même de la poésie qu'il cherchait, sans pouvoir le capturer. C'était comme une lueur confuse, une chaude et subtile vapeur, presque toujours insaisissable. Tout au plus arrivait-il, de temps en temps, à en attraper quelques lambeaux pour les tisser dans un écheveau de phrases qui résonnaient dans sa tête et dérivaient devant ses yeux comme des brumes à peine visibles. C'était vexant. Il mourait du désir de s'exprimer et ne réussissait qu'à annonner lamentablement, à l'instar du commun des mortels. Il lisait ses fragments à haute voix. Il y avait le nombre de pieds voulus, les rimes étaient justes, mais la lumière, la haute exaltation qu'il ressentait en lui, n'y était pas, et il ne comprenait pas pourquoi. Alors, en désespoir de cause, défait et déprimé, il retournait à son article. La prose était assurément un véhicule plus commode. Après « Pêcheur de perles », il écrivit un article sur le métier de marin, un autre sur la chasse à la tortue, et un troisième sur les alizés du Nord-Est. Puis, il s'essaya à la nouvelle. Il en rédigea 6 d'une traite, qu'il envoya à divers magazines. Il travaillait sans relâche, du matin au soir et jusque tard dans la nuit, en ne s'interrompant que pour faire un saut à la salle de lecture, pour retirer des livres à la bibliothèque ou pour rendre visite à Ruth. Il était profondément heureux. La vie volait haut. Sa fièvre ne retombait jamais. Le bonheur de créer, qui était censé n'appartenir qu'aux dieux, était en lui. Et en lui était la vraie vie. Tout le reste, les odeurs de lessive et de légumes pourris, le débraillé de sa sœur et les ricanements de M. Higginbotham n'étaient qu'un rêve. Le monde réel était dans son esprit et les histoires qu'il écrivait en étaient l'expression. Les jours étaient trop courts. Il avait tant d'études à entreprendre. Il réduisit son sommeil à 5 heures et apprit à s'en contenter. Il tenta même de rogner encore une demi-heure, mais dut y renoncer à regret. Il eut volontiers consacré la totalité de son temps à chacune de ses activités, et c'était la mort dans l'âme qu'il cessait d'écrire pour étudier, cessait d'étudier pour se rendre à la bibliothèque et s'extrayait de celle-ci pour se plonger dans la lecture des magazines, à la recherche du secret qui permettait aux autres écrivains de vendre leurs productions. Lorsqu'il était avec Ruth, c'était chaque fois un déchirement que de se lever pour partir, et il courait par les rues noires pour retrouver ses livres au plus vite. Mais le plus dur était de refermer ses manuels d'algèbre et de physique, de ranger son cahier et son stylo pour clore ses paupières lourdes et se forcer à dormir. L'idée de cesser de vivre, même pour une courte durée, lui faisait horreur, et sa seule consolation était dans le tic-tac de son réveil, ultime garantie que sa petite mort ne durerait que 5 heures et que, bientôt, la sonnerie le tirerait de l'inconscience. Alors, une nouvelle et glorieuse journée de 19 heures s'offrirait à lui. Pendant que les semaines filaient, son pécule filait aussi et il n'avait aucune rentrée d'argent en perspective. Un mois après son envoi, son feuilleton pour la jeunesse lui fut retourné par le Youth's Companion. Le mot de refus était rédigé avec tant de tact qu'il n'en tint pas rigueur au rédacteur. En revanche, il n'avait aucune sympathie pour le rédacteur du San Francisco Examiner. Après 2 semaines d'attente, Martin lui écrivit. Il recommença une semaine plus tard et à la fin du mois, à bout de patience, il fit le voyage de San Francisco pour le voir en personne. Mais un jeune cerbère, poupin et rouquin qui gardait la porte, l'empêcha d'arriver à ses fins. Au bout de la 5e semaine, le manuscrit lui fut renvoyé sans commentaire. Aucun mot de refus, aucune explication, rien. Il n'eut pas plus de résultats auprès des autres grands journaux de San Francisco. Il réexpédiait tous les manuscrits qui lui étaient retournés à des magazines de la côte Est, d'où il lui revenait encore plus vite, avec des mots de refus imprimés. Ses nouvelles connurent le même sort. Il les relisait inlassablement et les trouvait si bonnes qu'il ne comprenait pas pourquoi on les refusait. Un jour, il apprit par un journal que les manuscrits devaient toujours être dactylographiés. Tout s'expliquait. Évidemment. Les rédacteurs étaient trop occupés pour prendre le temps de déchiffrer une écriture manuelle. Martin loua donc une machine à écrire et en apprit le maniement en une journée. Il prit l'habitude de taper sa production quotidienne et, dès qu'un manuscrit lui était retourné, il le recopiait sur sa machine. Quand les textes imprimés commencèrent à revenir, eux aussi, il devint perplexe. Il serrait les dents, redressait le menton et les renvoyait systématiquement à de nouveaux rédacteurs. Peut-être n'était-il pas un bon juge de ses propres œuvres. Il essaya Gertrude et lui lut ses histoires. Elle le regarda avec des yeux brillants et lui dit, pleine de fierté, « C'est-il pas beau, ça ? C'est toi qui as écrit tout ça ?»« Oui, oui, » fit-il avec impatience. « Mais l'histoire, comment tu l'as trouvée ?»«
Magnifique, mais vraiment, hein, et saisissante. Avec ça, j'en suis toute remuée. »
Il vit que tout n'était pas clair dans son esprit. La perplexité se lisait sur son visage de bonne grosse. Il attendit.
« Mais dis voir, Marthe, » reprit-elle, après une longue hésitation, « comment que ça finit ? Ce jeune homme qui parle si pointu, est-ce qu'il a eu la fille ?»
Quand il lui eut expliqué la fin, qu'il pensait pourtant avoir artistement ficelée, elle lui dit «
C'est ce que je voulais savoir, pourquoi tu l'as pas écrit comme ça dans l'histoire ?»
Ces tests répétés apprirent au moins une chose à Martin. Elle aimait les aventures qui se terminaient bien.
« Cette histoire est absolument magnifique » commenta-t-elle, penchée sur le bac à lessive.
Elle se redressa avec un soupir de lassitude et passa une main rougie sur son front.
« Mais elle me rend triste à pleurer. Il y a déjà assez de tristesse comme ça dans le monde. J'aime mieux penser au bonheur, ça me met en joie. Tu vois, s'il pouvait se marier avec... Ça t'ennuie pas, Marthe ?»
demanda-t-elle gênée.
« Je vois les choses comme ça parce que je suis fatiguée, sûrement. »
« Mais ton histoire est bien quand même, hein, drôlement bien. À qui tu vas la vendre ?»«
Ça, c'est une autre paire de manches, » fit-il en riant. « Mais si t'arrivais à la vendre, tu crois que ça te rapporterait dans les combien ?»«
Oh, une centaine de dollars. Au moins ça, vu les tarifs. »«
Mazette, je te souhaite vraiment de la vendre. »«
De l'argent facile, hein ?» il ajouta avec fierté. « Je l'ai écrite en 2 jours. Ça fait 50 $ la journée. » Il mourait d'envie de lire ses histoires à Ruth, mais n'osait pas. Il voulait d'abord être publié. Alors elle comprendrait mieux pourquoi il avait tant travaillé. En attendant, il continuait sans relâche. Jamais le virus de l'aventure ne l'avait taquiné avec autant d'insistance que dans cette étonnante exploration du royaume de l'esprit. Il acheta les manuels de physique et de chimie et, comme pour l'algèbre, potassa les exercices et les démonstrations. Il se fiait entièrement aux descriptions des expériences de laboratoire et, grâce à son prodigieux pouvoir visionnaire, voyait les réactions chimiques plus nettement qu'un étudiant moyen avec le nez sur l'éprouvette. Il feuilletait les austères manuels avec enthousiasme, en s'émerveillant des lois naturelles qu'il y découvrait. Jusqu'alors, il avait accepté le monde tel qu'il était. À présent, il en comprenait l'économie interne, l'interaction des forces et de la matière. Les phénomènes mécaniques qu'il avait observés sur les bateaux s'expliquaient d'eux-mêmes. Les leviers et les résultantes le fascinaient. Les poulies, les cabestans et les palans n'avaient plus de secret pour lui. Les principes de la navigation qui permettaient au navire de suivre une route sur un océan sans repère matériel devenaient enfin clairs. Le mystère des orages, de la pluie, des marées lui fut révélé. En découvrant l'explication physique du sens des vents aux abords de l'équateur, il se demanda s'il n'avait pas écrit trop vite son article sur les alizés du Nord-Est. En tout cas, il avait les moyens de le rédiger beaucoup mieux maintenant, s'il le voulait. Un après-midi, il accompagna Arthur à l'université de Californie et religieusement, le souffle court, parcourut les laboratoires, assista à des expériences et écouta la leçon d'un professeur de physique. Mais il n'oubliait pas d'écrire. Une rivière de nouvelles coulait de sa plume. Il s'essaya aux formes poétiques plus faciles, du genre de celles qu'il voyait imprimées dans les magazines. Mais au lieu de rester raisonnable, il gaspilla 2 semaines à s'échiner sur une tragédie en vers libres, aussitôt refusée par une demi-douzaine de revues, avec une unanimité qui le confondit. Puis, il composa une suite de poèmes sur la mer en s'inspirant de Henley, des poèmes simples, hauts en couleurs, pleins de romantisme et d'aventure. Il l'intitula « Le chant de la mer » et considéra que c'était sa plus belle œuvre à ce jour. Il l'acheva en 1 mois, à raison d'un poème par jour, il y en avait 30, sans interrompre pour autant ses travaux romanesques. Il faisait en une journée ce qu'un honnête écrivain faisait en une semaine. Le travail n'était rien pour lui, ce n'était pas du travail, il découvrait le langage. Toutes les splendeurs qu'il avait contenues pendant des années dans un mutisme forcé jaillissaient à présent avec la force d'un torrent. Il ne montra le chant de la mer à personne, pas même au rédacteur. Il commençait à se méfier d'eux. Mais ce n'était pas la méfiance qui le retenait de leur soumettre son chant. Il trouvait ses poèmes si beaux qu'il voulait les garder secrets jusqu'au jour lointain et glorieux où il aurait le courage de les lire à route. En attendant, il les gardait pour lui et les apprenait par cœur en les déclamant de sa plus belle voix. S'il vivait intensément chaque instant de la journée, il vivait aussi dans son sommeil. Son esprit continuait à fonctionner pendant ses 5 heures de répit, transformant les pensées et les événements de la veille en fantasques prodiges. En réalité, il ne se reposait jamais. Avec un corps moins solide et un cerveau moins bien assis, il eût succombé à un abattement général. Ses visites chez Ruth se raréfiaient, car juin approchait et elle préparait son diplôme. Licencié S-lettres. Avec un titre pareil, elle atteignait des hauteurs de plus en plus inaccessibles pour lui. Elle lui accordait un après-midi par semaine. Comme il arrivait tard, il restait généralement pour le dîner et la séance de musique qui s'ensuivait. Ces jours-là s'inscrivaient en lettres rouges dans sa mémoire. L'atmosphère de la maison, si différente de celle dans laquelle il vivait, et la proximité de Ruth le raffermissaient chaque fois dans sa résolution de s'élever. Car, plus que son irrépressible désir de créer de belles choses, c'était elle qui lui donnait l'envie de lutter. Il était d'abord et avant tout amoureux. Tout le reste était subordonné à cet amour, la plus grande de toutes ses aventures. Ce qui rendait le monde si fascinant, ce n'était pas l'étonnante combinaison des atomes et des molécules qui le composaient, c'était le fait que Ruth y vécut. Jamais ses yeux, ses rêves, ses pensées n'avaient eu de plus sublime objet qu'elle. Mais son éloignement l'accablait. Elle était si loin de lui. Comment l'approcher? Il avait toujours eu beaucoup de succès auprès des filles et des femmes de son milieu, mais il n'en avait jamais aimé aucune. S'il aimait Ruth, ce n'était pas parce qu'elle était d'une autre classe, son amour l'élevait au-dessus des classes, mais parce qu'elle était un être à part, tellement distante que toute intimité lui semblait impossible. Certes, ses progrès dans le savoir et le langage lui avaient permis de se rapprocher d'elle, de parler comme elle, de découvrir qu'ils avaient des idées communes, mais cela ne pouvait satisfaire les attentes d'un amant. Il l'avait trop sanctifiée, trop idéalisée pour la supposer capable du moindre penchant charnel. C'était son propre amour qui l'éloignait d'elle et la rendait inaccessible, son propre amour qui lui déniait la seule chose qu'il désira. Puis, un jour, sans avertissement, un pont fut jeté sur le gouffre qui les séparait, et le gouffre lui-même parut rétrécir. Ils avaient mangé des cerises, de grosses cerises noires et charnues, au jus sombre comme du vin. Plus tard, tandis qu'elle lui lisait un passage de La Princesse, il remarqua par hasard que les cerises avaient taché ses lèvres. Sur le moment, sa divinité s'estompa. C'était un être de chair, après tout, de simple chair, soumis aux lois de la chair, comme lui ou n'importe qui. Ses lèvres étaient de même constitution que les siennes, les cerises les teintaient pareillement. Et, s'il en était ainsi de ses lèvres, il devait en être ainsi de toute sa personne. Elle était femme, entièrement femme, comme n'importe quelle autre femme. Cette brutale révélation l'étourdit. Il n'eût pas été plus ébahi de voir le soleil se décrocher du ciel. C'était comme une souillure sur la pureté qu'il vénérait. Puis, comprenant la signification de ce qui venait de se passer, il sentit son cœur bondir, devenir l'amant de cette femme, qui n'était pas un esprit venu d'un autre monde, mais une simple femme avec des lèvres que les cerises pouvaient tacher. L'audace de cette pensée le fit trembler, mais sa raison triomphante lui clamait qu'il avait vu juste. Elle dut percevoir son changement, car elle interrompit sa lecture et lui sourit. Il laissa errer son regard de ses yeux bleus à ses lèvres, et la vue de la tache l'affola. Il faillit lui ouvrir les bras et l'enlacer, comme au temps de sa vie insouciante. Elle parut se pencher vers lui, l'attendre, et il dut faire appel à toute sa volonté pour se contenir. « Vous n'avez pas écouté un mot, » dit-elle avec une petite moue. Puis elle se mit à rire, ravie de sa confusion. devant la franchise de son regard, comprenant qu'elle ne s'était aperçue de rien, il tomba des nues. Ses pensées l'avaient entraîné bien trop loin. De toutes les femmes qu'il avait connues, il n'y en avait pas une seule qui n'eût deviné. Et elle n'avait rien vu. Toute la différence était là. Elle était vraiment d'une autre espèce. Devant tant d'innocence, il eut honte de sa grossièreté. Le gouffre était de nouveau béant. Le pont s'était écroulé. Pourtant, cet incident le rapprocha d'elle. Le souvenir en resta vivace et il s'y raccrochait chaque fois qu'il perdait le moral. Le gouffre ne serait plus jamais aussi large. Le pas qu'il avait accompli était bien plus important qu'une licence S-lettres, que toutes les licences de la faculté. Elle était pure, c'était vrai, plus pure qu'un rêve de pureté. Mais les cerises tachaient ses lèvres. Elle était soumise comme lui, aussi inexorablement que lui, aux lois de l'univers. Elle devait manger pour vivre et prenait froid quand elle avait les pieds mouillés. Mais là n'était pas la question. Si elle pouvait ressentir la faim et la soif, le chaud et le froid, alors elle pouvait ressentir aussi l'amour, et l'amour pour un homme. Eh bien, pourquoi ne serait-il pas celui-là? N'était-il pas un homme? À moi de me montrer à la hauteur, murmurait-il, avec ferveur. Je serai cet homme-là. Je serai à la hauteur.